d'histoires et contes.
Chanson d'été. Dis-moi plus que des mots d'amour, pensa très fort Françoise. Les mains du prêtre, en grande chasuble verte et blanche, tremblaient, tandis qu'il discourait sur le Sauveur et son amour pour les hommes. Il nous observe et protège les hommes de bonne volonté. Mais son visage ne reflétait que la peur, comme les centaines de pères Dieu qui suivaient l'office quotidien célébrés dans la petite chapelle Albout, dont le style gothique avait jusque-là forcé l'admiration des promeneurs. De violents éclairs, accompagnés de bruits terrifiants, traversaient les vitraux colorés du XIVe siècle qui ornaient l'édifice. « Ce n'est pas de mon amour dont on a besoin, mais de secours, » chuchota Françoise à l'oreille de sa mère. « Tais-toi et prie, » ordonna celle-ci en lui serrant la main compulsivement. Françoise regarda autour d'elle. Plus de 1000 personnes, regroupées en familles plus ou moins au complet, des enfants désormais orphelins, des adultes seuls, décomposés, occupaient l'abbaye aux hommes. Quand cet enfer se terminerait-il? Car il s'agissait bien de cela. En attendant le paradis promis par le représentant de Dieu, la population réunie en ce lieu vivait l'horreur absolue. La plupart des réfugiés avaient tout perdu, leurs biens, mais aussi des membres de leur famille, des voisins, des proches. On était le 8 juillet 1944 et cela semblait devoir durer éternellement. Françoise essaya de se souvenir. Tout avait commencé avec ce maudit poème, les sanglots longs des violons de l'automne. « Alors, c'est imminent !» avait seulement commenté son père le 1er juin. Car, commandant chargé du ravitaillement de la ville, il était clandestinement en contact avec la résistance pour laquelle il détournait des vivres. Le 2 juin, lorsque la même strophe avait été prononcée par Radio Londres, le commandant Moller avait ordonné laconiquement « On range la vaisselle dans des caisses, on empile nos vêtements dans des cartons et on descend tous à la cave. » Le commandant Moller, la guerre, il connaissait. Lorrain d'origine, il avait tout perdu en 1916 quand son village avait été occupé par les Prussiens. Ingénieur horticole de formation, la Grande Guerre l'avait avalé et, ayant gravi les échelons de la hiérarchie militaire grâce à son comportement héroïque, il avait continué sur cette voie jusqu'en 1918, puis dans les Balkans. En 1935, flairant que les Allemands allaient de nouveau tenter d'envahir le pays, il avait sollicité un poste éloigné de la frontière alsacienne et avait pu rejoindre la garnison de Caen. Un bon choix, jusque-là. « Blesse mon cœur d'une langueur monotone », avait déclamé la radio le 5 juin. « Ça y est », avait-il annoncé, « c'est pour demain ». Pour Françoise et ses sœurs, Louise et Arlette, ce n'était que des mots. Pour Aglaé, leur mère, cela avait un peu plus de sens, bien qu'elle n'ait vécu que les conséquences positives de la Première Guerre. Mariée en 1924, elle avait ensuite rejoint son mari à Koblenz, où il participait à l'occupation de la Ruhr avec son cousin, le colonel Moller, gouverneur militaire de la ville. Françoise, qui n'était pas née à cette époque, se souvenait de ce que sa mère racontait. Ils habitaient les deux premiers niveaux d'une grande maison appartenant à un industriel allemand, lui et sa famille ayant été relégués dans les combles. Aglaé était pianiste. En dehors des réceptions données par l'état-major dans les salons qu'ils occupaient, elle passait son temps à travailler son répertoire sur le grand piano de la salle de séjour. Enfin, elle répétait pour elle, car, selon le commandant, une femme d'officier ne se produisait pas en public. « C'est étrange, » confiait-elle. « Nos hôtes n'avaient pas l'air d'aimer mon jeu. Leur mine était toujours triste et renfrognée. » Le lundi 5 juin, au soir, comme rien n'avait finalement changé par rapport au jour précédent, Aglaé avait joué les 4 ballades de Chopin, ses filles écoutant avec admiration leur mère qui leur avait transmis son don. Dans la rue Saint-Pierre, où ils habitaient, les troupes allemandes avaient défilé comme d'habitude, au rythme de leur chant « Haïli Haïlo ». Depuis juin 1940, ils étaient habitués à ce rituel, qui paraissait immuable, à ceci près que les soldats qui marchaient au pas de l'oie sous leurs fenêtres paraissaient de plus en plus jeunes, certains ayant l'air d'avoir dans les 15 ans. Dans la nuit, le ronronnement d'avions survolant la ville les avait réveillés. Tendant l'oreille, ils perçurent des bruits de canonnades venant de la côte. « Les obus de marine, » commenta le commandant. « Ils peuvent parcourir 20 kilomètres. »« Jusqu'ici ?» demanda Louise. « Oui, jusqu'ici, » avait-il confirmé. « Les obus de 406, » marmonna-t-il pour lui-même. On ne pouvait pas savoir s'il se réjouissait ou s'il était inquiet, car il ne laissait jamais rien transpirer de ses sentiments, hormis sa colère envers ceux qui désobéissaient au règlement ou qui trahissaient la patrie. Le 6 juin 1944, la famille venait de terminer son déjeuner, constitué de rutabaga assaisonnée de quelques lardons, quand le cataclysme avait commencé. Des centaines de tonnes de bombes explosèrent sur la ville, dans le quartier de la Banque de France, rue Saint-Louis, rue Saint-Jean, rue de Jaulle, tuant indifféremment des militaires allemands ou des civils. Le raid avait duré 10 minutes, 10 minutes d'épouvante totale. Par chance, leur maison de la rue Saint-Pierre avait été épargnée. À 16h25, un nouveau raid avait poursuivi sa tâche destructrice rue de Caumont, anéantissant l'annexe de la préfecture, le palais de l'inspection académique, l'ouvroir Notre-Dame et endommageant Saint-Étienne-le-Vieux. « Il faut fuir la ville !» avait lancé Aglaé en se signant. « Impossible !» avait répliqué froidement le commandant. « Je ne peux pas abandonner mon poste. » Et ils étaient descendus dans les caves de l'immeuble, rejoignant des dizaines de personnes terrorisées. « Ils vont tous nous exterminer !» disait l'un en sanglotant. « Et détruire nos maisons !» surenchérit un autre. « On paye nos fautes !» ajouta un autre. Si on était parti en Angleterre, on serait avec eux en train de pilonner la ville. On ne pouvait pas tout abandonner aux Allemands, répliqua sèchement le commandant. Dans la nuit du 6 au 7 juin, les bombardements s'amplifièrent et cette fois, ce furent des milliers de projectiles qui s'abattirent sur la ville, transformés progressivement en champs de ruines. Et le 8 juin, le même scénario se reproduisit. Le commandant partit à l'aube à travers les décombres rejoindre le PC de la défense passive de la ville. À son retour, il leur annonça qu'ils allaient se réfugier dans l'abbaye aux hommes, après avoir demandé aux Anglais d'éviter de bombarder l'édifice où Guillaume le Conquérant était inhumé, pensant peut-être achever de les convaincre avec cet argument. Lorsqu'ils étaient sortis de la cave où ils s'étaient terrés, l'horreur du spectacle les agressa si brutalement qu'ils en furent marqués à vie. Dans leur quartier, les rues étaient ensevelies sous les décombres des bâtiments. On ne pouvait plus marcher 10 pas sans devoir enjamber des amas de pierres, des débris de meubles ou de toitures. Des cadavres jonchaient le sol, tandis que des pompiers ou des secouristes volontaires tentaient, au péril de leur vie, de dégager les corps. C'est ainsi qu'ils atteignirent l'abbaye, où des centaines de personnes s'étaient déjà abritées, croisant sur leur trajet des files de gens apeurés qui, au contraire, essayaient de fuir la ville vers le sud. Les bombardements étaient quasi quotidiens. On savait que certains avions larguaient les bombes depuis des hauteurs vertigineuses et, malgré l'accord qui aurait été passé avec les Anglais, personne n'était rassuré. Quelques courageux étaient retournés chercher des draps et, à l'aide du sang des victimes, ils avaient dessiné une immense croix rouge qu'ils avaient hissée sur le toit de l'abbaye afin que les avions alliés les repèrent mieux et les évitent. Cela avait fonctionné en partie, mais un obus était quand même tombé sur la nef, ce qui avait provoqué la chute d'une pierre de taille et blessé gravement une jeune fille. Françoise avait été déléguée au service de l'eau. Elle devait chaque jour sortir et se rendre à un lavoir situé à quelques centaines de mètres afin de remplir des seaux pour la journée. Elle marchait au milieu des débris, entendant au loin les sifflements des obus de marine et les sirènes qui hurlaient. Des incendies ravageaient la ville. Des gens couraient dans tous les sens, certains venant de villages voisins évacués espérant trouver un refuge plus sûr en ville. Un obus de 406, le 12 juin, avait décapité le clocher de l'église Saint-Pierre. Caen, la ville aux 100 clochers, allait bientôt devoir changer de surnom. Françoise avait eu le courage de retourner voir ce qu'était devenu leur maison. À sa place, un tas de cailloux et quelques poutres calcinées issues de la charpente ou des colombages occupaient l'espace où ils avaient vécu. Elle aperçut entre deux moellons quelques touches du piano de sa mère, vestiges de l'expression d'une sensibilité qui n'avait plus de place pour s'exprimer. De retour à l'abbaye, dans les 10 mètres carrés recouverts de paille qui constituaient désormais leur chez-eux, elle annonça cette triste nouvelle à sa mère et à ses sœurs. Aglaé demeura muette, mais on la vit blêmir et son regard se vida. C'était sa vie, son âme même, qui avait été détruite. « On en rachètera un autre, » dit le commandant le soir quand il les rejoignit. Mais c'en était trop pour Aglaé, qui sombra dans une dépression sans fin. Le matin, un prêtre continuait à célébrer l'office, invitant l'assemblée à prier Dieu, leur assurant que le Seigneur aimait ses enfants et que, s'ils plaçaient leur confiance en lui, ils seraient sauvés. Toujours des mots d'amour, se répétait Françoise. À quand un vrai toit et de quoi manger? Nous voulons seulement du concret. Le soir, le prêtre faisait le tour de l'église et donnait l'absolution à toutes les personnes amassées dans le lieu saint, expliquant qu'on ne pouvait pas être certain d'être encore en vie le lendemain. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone, se répéta Françoise. Quel euphémisme! On tue, on détruit, on ravage. Si Verlaine avait pu deviner que tout était parti de là, savait-il que ces quelques vers allaient déclencher pareille offensive? Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte, de ça, de là, pareil à la feuille morte, poursuivit Françoise dans sa tête. Oui, que sommes-nous donc d'autres que des feuilles mortes emportées par le vent de la guerre et de l'histoire? Un jour, alors qu'elle revenait du lavoir chargé de 2 seaux pleins, une bombe explosa à quelques dizaines de mètres. Prise de panique, elle avait lâché les seaux et perdu leur précieux liquide. Elle n'avait pas été la seule, mais on n'avait droit qu'à une ration d'eau. Un jeune homme avait vu la scène alors qu'il était encore dans la queue et, après avoir rempli ses 2 récipients, avait partagé sa maigre réserve. « Merci », avait-elle dit. « J'ai été stupide. » Il faut déjà beaucoup de courage pour venir ici, alors qu'on peut être fauché à tout moment par un obus, avait-il répliqué. Nous sommes réfugiés avec ma sœur et mes parents au lycée Malherbe. Et vous ? Elle avait montré du doigt l'abbaye encore tremblante. Des éclats d'obus avaient frappé quelques personnes, derrière elle, qui se tordaient de douleur sur le sol. Il faut aider ces gens, avait-elle dit. Et tous les deux, ils avaient contribué à porter les blessés vers le lycée en partie transformé en infirmerie. « Mon oncle, ma tante et 3 de mes cousins sont morts », avait-il raconté. « Notre maison a été soufflée par une bombe », avait répliqué Françoise, « mais nous sommes encore en vie. » Il était étudiant en mathématiques, alors que Françoise l'était en biologie. Ils avaient pris l'habitude, malgré les bombes, de s'attendre après avoir rempli leur seau et d'échanger quelques nouvelles. Puis, afin d'améliorer les repas de leurs familles respectives, ils avaient décidé de chercher dans les décombres récents des restes de nourriture. C'était doublement dangereux, car les SS se livraient quotidiennement au pillage et représentaient des concurrents impitoyables. Ils réussirent ainsi à trouver du pain, des restes de légumes, de fromage ou des fruits, et même quelques bouteilles de vin intactes dans une anfractuosité de gravats. À côté d'une bouteille de Bordeaux, un verre brisé révélait que les obus, responsables de ce désastre, avaient surpris des convives en plein repas. Lorsque Françoise avait raconté cela à son père, celui-ci s'était emporté. « Ce que tu fais est trop dangereux. Et qui est ce garçon? On ne connaît même pas sa famille. » Mais Françoise s'étonna elle-même de ne pas tenir compte des injonctions de son père et continua ses expéditions avec Pierre. Le cauchemar dura ainsi jusqu'au 8 juillet, les bombes ou les obus étant alternativement alliés ou allemands. Le 9 juillet, les troupes canadiennes défilèrent rive gauche de l'Orne. Cette partie de la ville fut enfin libérée. La population sortit des abris et on acclama les libérateurs. Françoise, au premier rang de la foule, hagarde, les observa comme dans un rêve. Était-ce fini ? Vous pourriez nous applaudir, lui lança un soldat canadien. Françoise regarda tour à tour la désolation autour d'elle et les héros victorieux qui défilaient. « Tel est le prix de la liberté », murmura-t-elle pour elle-même. Les deux rives de l'Orne, et donc la ville complète, ne furent totalement libérées que le 20 juillet. On pouvait enfin circuler sans crainte que la mort ne nous surprenne à l'improviste. Pierre rechercha activement Françoise dans le quartier de Saint-Étienne. Un soir, il la croisa, alors qu'elle essayait de récupérer quelques affaires enfouies sous les décombres, dans les malles qu'ils avaient remisées le 5 juin dans les caves. La vaisselle était totalement brisée. Quant aux vêtements, ils étaient calcinés. Les livres, les bibelots, tout avait été réduit en cendres. « Je suis venu te dire que je m'en vais, » lui dit-il, alors qu'elle fondait en pleurs, de joie de le retrouver et de tristesse de devoir le quitter. Il la prit doucement dans ses bras, puis la consola longuement. « Tes larmes, » ajouta-t-il doucement en lui caressant la joue, « tes larmes, malheureusement, n'y pourront rien changer. Mes parents ont décidé de quitter Caen, puis, dans quelques mois, quand tout sera fini, de se rendre dans le sud de la France, près d'Avignon, où ils possèdent une maison. « Dans le pays du Mistral, » souffla-t-il tristement. « Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. » Elle le serra très fort contre elle, et fut secoué de sanglots. « On s'écriera ?»« Oui, » chuchota-t-il. Elle rejoignit sa famille au milieu des convois militaires qui entraient dans Caen sans discontinuer, puis se mit à fredonner comme un refrain. « Je suis venu te dire que je m'en vais, et tes larmes n'y pourront rien changer, comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. »